Évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors ça sera notre premier passage. On n'affiche pas les passages quand on lit la Bible, non? Ou bien tu veux te reposer un petit peu? Bon, n'affiche pas celui-là, on l'a lu. Donc, mais l'autre, faut me l'afficher dans 2 Corinthiens. Hein? De Corinthiens 3:17. Ça va? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah, voilà, ça c'est bien, j'aime bien quand on affiche. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Un peu l'autre verset plus loin, ensuite. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Tu peux me laisser afficher ça, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà que ces deux petits passages qu'on vient de prendre nous parlent du Saint-Esprit. Donc, Jean 3 nous parle du Saint-Esprit, il dit le vent souffle où il veut, et ici le vent c'est le Saint-Esprit en fait. D'ailleurs, on va pas faire beaucoup de grec et d'hébreu, rassurez-vous, mais on va en faire un petit peu, juste un mot. Vous savez que aussi bien en hébreu qu'en grec, vent et esprit, c'est le même mot. Nous, on a deux mots différents, hein, donc on fait bien une nette distinction entre le vent et l'esprit, mais en hébreu, le vent et l'esprit, ben peut-être que vous avez déjà entendu ce mot-là, puisque parfois il apparaît dans des chants, rouard, hein, rouard, ça vous dit, hein, je vois que vous avez déjà, il y a un chant, hein, comme ça, rouard, 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 hein. Ah bon, ben vous l'avez chanté hier, donc c'est très bien, hein, rouar avec un, parce que l'hébreu c'est comme l'arabe, hein, ça racle un peu la gorge, hein. Donc rouar, c'est aussi bien, on peut aussi bien traduire vent que esprit. Et puis en grec c'est pneuma, donc vous avez tous des pneumatiques à votre voiture, hein, 4, hein, en principe, et puis une roue de secours. Donc, pneuma, ça veut dire le vent. Donc, des pneus, ben, c'est ce qui est gonflé d'air pour que votre voiture roule bien, hein. Puis quand il y en a un de crevé, ben, tout de suite vous le sentez, hein. Donc, c'est pneuma. Pneuma veut dire aussi bien le vent que l'esprit. Alors, vous comprenez pourquoi Jésus va dire, ben, le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Comme le vent. Et si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans la Bible il y a longtemps, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu donner la puissance à l'Église, il y a eu un vent. Et le texte dit un vent impétueux. Alors, qu'est-ce que c'est un vent impétueux? Hein? Alors je sais bien que, par exemple, si on prend dans l'Ancien Testament, il y a aussi un murmure doux et léger. Mais ici, on parle d'un vent impétueux. Qu'est-ce que c'est qu'un vent impétueux, d'après vous? Dites-moi un peu. Hein? Moi, j'aime pas le vent, je vous le dis tout de suite. Daniel aime beaucoup le vent. Quand il y a du vent, Daniel dort bien. Et puis Jacques, il est tout énervé, il est dans tous ses états. Le vent, ça ne me, Pas comme beaucoup d'églises, hein. Beaucoup d'églises qui ont peur du vent du Saint-Esprit, de ce vent impétueux. Alors comment vous voyez un vent impétueux? S'il y avait un vent impétueux qui soufflait ici, hein, eh bien mesdames, vous seriez toutes décoiffées. Hein? Bon, hein, et les rideaux ici seraient peut-être bousculés et même peut-être se détacheraient. Non? Vous croyez pas? Alors, on prie pour le réveil, on ne sait pas pourquoi on prie en fait. Parce que beaucoup d'églises prient pour le réveil, je pense que vous êtes une église qui prie pour le réveil, hein. Bon, si j'ai bien compris, ici, vous êtes plus ou moins pentecôtiste, hein. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'être pentecôtiste alors? D'après vous. Et même, d'après moi, être pentecôtiste, ben, dans pentecôtiste, on entend tout de même Pentecôte, non? Non? Ah oui, mais c'est un vent impétueux, alors. Et donc, ça veut dire que, on va être bousculé. Bon, nous, on n'est pas une église pentecôtiste. Du moins, officiellement. On est une église charismatique, on dit. Bon, ben, c'est à peu près le même, vous savez. C'est-à-dire que, bon, ben, nous, on est du réveil charismatique, les années 70, mais enfin, bon, ça n'a pas d'importance, c'est toujours le Saint-Esprit. Alors, tant que j'y pense, ça me vient comme ça, je vais tordre le cou à un fameux canard. De plus en plus, j'entends dire, et on dit, et on enseigne dans les églises qu'on ne doit pas prier le Saint-Esprit. Eh bien, ça, c'est une erreur. Et je vais même employer un grand mot, quand moi je vois l'histoire de l'Église, c'est une hérésie. Alors, vous voulez savoir le nom de cette hérésie? Comment on appelait ces hérétiques qui refusaient de prier le Saint-Esprit? Ben, c'était les témoins de Jéhovah de ce temps-là, les Ariens, l'arianisme. On appelait ça, alors vous allez noter le mot parce que il est tellement joli, on appelait ça les pneumatomaques. C'est un beau mot, hein, non? Pneumatomaques. Alors pneumato, esprit toujours, hein, comme mes pneumatiques de tout à l'heure, et mac, en grec, ça veut dire qui combat contre le Saint-Esprit, qui combat le Saint-Esprit. De nos jours, il y a beaucoup de pneumatomaques. De gens qui, sans s'en rendre compte, se sont mis contre le Saint-Esprit. Et je parle pas de ceux qui sont contre les dons spirituels. Parler en langue, prophétie, guérison, il y a des églises comme ça. Bon, bien sûr, ils sont pneumatomaques de fait. Mais aussi dans nos églises dites réveillées de Pentecôte, charismatiques et tout ça, parfois on combat le Saint-Esprit. Sans s'en rendre compte. Et pourquoi on combat le Saint-Esprit? Parce qu'on en a peur. Parce que le vent, ici, impétueux, Jésus parle du vent, impétueux, eh bien, on se rend compte que ça va remettre en question nos habitudes, nos traditions, notre manière de faire le culte, bien ronron, bien établi. Voilà, dans le fond, peut-être que ce matin vous êtes venu ici et puis vous dites, ben voilà, ça va se passer comme ça. Le pasteur Pascal va prendre sa guitare, on va chanter quelques cantiques, on va intercaler des prières. Et en général, on sait à peu près d'avance celui qui va prier et celui qui ne va pas prier. Voilà, alors c'est bien comme ça, et puis après il y aura la Sainte Cène, on va avoir notre petit morceau de pain, notre petit verre de jus de raisin, et c'est bien, et puis après ben la fille là elle va passer pour l'offrande. Alors il y en a qui pensent à ce moment-là, ah ben c'est tout dit d'Elia Rossi, ça c'est du wallon de Charleroi. Hein, je pense que vous comprenez quand même, Charleroi n'est pas si grand. Et puis, Et puis moi, je leur dis toujours, mais on n'est ni des satchodliars. Bon, et puis voilà, et puis ça c'est bien gentil, et puis on va entendre une prédication, hein, mademoiselle. Et puis après, je sais pas s'il y a une tasse de café ici, hein, après le culte, et puis on va retourner chez nous, puis voilà, puis dimanche prochain, on recommencera. Et moi, je vous dis que un de ces jours, vous allez voir, il va y avoir ici un courant d'air. C'est moi qui vous le dis, parce que je le sens. Donc, Daniel aussi. Alors, elle, attention, elle est dans le prophétique. Hein. Moi, je ne suis pas un prophète. Je suis dans. Mais un de ces jours, il va ici y avoir un courant d'air. Et est-ce qu'on est prêt pour le courant d'air, pour le vent impétueux? Alors, vous allez devenir des vrais pentecôtistes du jour de la Pentecôte. Une fois, mon ami Christian Piette, peut-être que vous le connaissez, toi tu le connais en tout cas, donc priez pour lui, il a la maladie d'Alzheimer, maintenant il est très mal, il est placé. Mais donc on a beaucoup travaillé ensemble sur les sectes, hein. Les témoins de Jéhovah, les mormons, enfin sur toutes les sectes. On a fondé ensemble l'organisation Vigisecte, qui a son... Si ça vous intéresse, tapez Vigisecte, vous allez trouver le site. Et il me dit, comme ça, on partait, en, je sais plus à quelle réunion, il me dit, dans la voiture, il me dit, d'après toi, la Pentecôte, c'est un fait qui a eu lieu une fois pour toutes, ou c'est quelque chose de permanent dans l'Église? Hein, question intéressante, ça. Moi, je lui ai dit, bonne question, mon colonel. Mais pour moi, la Pentecôte, c'est les deux. Vous voyez, c'est évidemment un événement historique qui a eu lieu à Jérusalem en l'an 30, mais c'est aussi quelque chose qui doit être permanent dans l'Église. La Pentecôte, mais elle est pour nous aujourd'hui ici. On est où ici? À Profondeville, à Boisdevilliers, hein? Voilà. La Pentecôte, c'est pas seulement quelque chose d'historique qui s'est passé une fois, et puis on fait chaque année une fête de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, elle est permanente. Et donc c'est pour ça que je pense qu'ici va bientôt y avoir quelque chose comme ça, quoi. Parce que si la Pentecôte, ce n'est qu'une référence historique, bon, évidemment, les pentecôtistes, ils vont se référer à Azusa Street 1905. Mais si vous invitez Pierre Demode, il va vous expliquer que Azusa Street 1905, en fait, c'était pas du tout ce que vous pensez. C'était en fait plus, ça ressemblait plus au cirque qu'à ce qui se vit actuellement dans la plupart des églises de Pentecôte. C'était un grand, grand courant d'air. Et puis seulement ce qu'on en raconte, voyez, les historiens de l'Église sont sélectifs. Il ne raconte que ce qui est bien normatif. Mais en fait, Azusa Street, le réveil de Pentecôte, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était le feu, le vent, l'effervescence. C'était incroyable. Et ajoutez à ça que les spirites venaient là-dedans et puis prophétiser à tort et à travers, et c'était quelque chose d'incroyable. Et donc après, ils ont dû mettre de l'ordre et empêcher tous ces spirites et tous ces charlatans qui venaient et qui mettaient la pagaille dans les réunions. Seulement, vous voyez, le problème, c'est que quand on veut trop contrôler les spirites, il faut faire attention de ne pas, en même temps, contrôler le Saint-Esprit. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a tellement eu peur des contrefaçons, Ben que on en file finalement, on a un proverbe, hein, vous le connaissez, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, parce que l'eau du bain était sale, mais en l'occurrence le bébé c'est le Saint-Esprit, et on a établi une tradition. Là, nous on est toujours en train de critiquer les catholiques, hein, parce que les catholiques, t'as déjà regardé le pape à la télé? Hein? Bon, toi t'es catholique. Bon. Il y a une tradition dans l'Église catholique, hein? Très forte, hein? Très 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 pesante, hein? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais nous aussi on a des traditions, vous savez, et on a une tradition. Et quand le Saint-Esprit va se mettre à souffler ici, eh ben nos traditions vont sauter en l'air. Et ça va être un grand courant d'air. Si t'es catholique, c'est le pape Jean XXIII, quand il a fait le Concile Vatican II, qui a dit, on va ouvrir les fenêtres et on va faire un grand courant d'air. Pour moi, ça, je sais pas s'ils ont réussi. Mais en tout cas, pour moi, c'est une parole de sagesse pour nous. Il faut qu'on ouvre les fenêtres ici et qu'il y ait un grand courant d'air et le réveil va venir et les gens vont venir. Parce que la religion n'attire plus les gens. Vous avez remarqué que la religion n'attire plus les gens. Ce qui les attire, c'est le réveil. C'est qu'il se passe quelque chose. Que le Saint-Esprit soit comme un vent impétueux. Alors n'ayez pas peur. Et priez le Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que je reviens à mon idée là de mon canard à qui je veux tordre le cou. C'est de deux choses l'une. C'est très simple, vous savez. Souvent, on se complique beaucoup les histoires, surtout en théologie. Les théologiens, ils sont un peu compliqués, je le sais, j'en suis un. Mais avec le Saint-Esprit, c'est très simple. C'est de deux choses l'une. Ou le Saint-Esprit est Dieu. On va voir si Pascal vous... Merci. On va voir si Pascal vous enseigne bien. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est Dieu? Attention, sinon vous êtes témoin de Jéhovah, hein? Alors, moi je change mon discours, hein? Si vous êtes témoin de Jéhovah, je vais tout de suite changer mon discours. Mais vous croyez que le Saint-Esprit est Dieu? Vous faites bien. Bon, alors si le Saint-Esprit est Dieu, il faut qu'on le prie. Qu'on l'adore, qu'on ait une relation vivante avec lui. D'accord? C'est juste. Maintenant, si vous me dites que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, alors évidemment, faut arrêter tout ça. Faut arrêter de le prier, faut arrêter de chanter les cantiques dans le temps, même dans les ailes de la foi. Et on avait des vieux cantiques, hein. Vous voulez que je vous en chante un? Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu. Baptise-nous de feu. Alors ça fait plaisir aux vieux et elle s'en va du coup. Bon, on chantait ces cantiques-là. Alors, mais alors c'est pas une prière au Saint-Esprit ça. On n'invoque pas le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit dans ce cantique-là. Or moi j'ai été catholique, hein. Et saint Augustin disait « Chanter, c'est prier deux fois ». Oui, parce qu'on chante une fois avec sa voix, une fois avec la musique, avec la mélodie. Alors, il faut arrêter, vous comprenez, les bêtises. Le Saint-Esprit est digne d'adoration. Il est digne de louange. Et si on veut aller plus loin, par exemple dans les dons spirituels, j'ai entendu parler, c'est toi qui parlais de dons spirituels tout à l'heure, mais si on veut aller plus loin dans les dons spirituels, il faut qu'on ait une relation avec le Saint-Esprit, une communion vivante avec le Saint-Esprit. Pourquoi les dons spirituels sont bloqués dans les églises? Parce que on n'a pas une relation vivante avec le Saint-Esprit. Parce que là où il y a une relation vivante avec le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il le veut. Alors, alors, si vous n'avez pas cette relation vivante avec le Saint-Esprit, si vous, pour vous, le Saint-Esprit, c'est rester une doctrine, ben, il n'y a plus de parler en langue, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus, enfin, tous les dons, il n'y a plus de discernement des esprits, il n'y a plus de délivrance, tout est bloqué. Parce que c'est de notre relation avec le Saint-Esprit, de notre communion vivante avec le Saint-Esprit, mademoiselle, que les dons spirituels découlent et les ministères découlent. Alors là où il y a le Saint-Esprit, je peux vous dire qu'il y a des ministères qui se lèvent, il y a des jeunes qui se lèvent pour le ministère. À la Pentecôte, c'est vos fils et vos filles prophétiseront, hein, reprenant le prophète Joël, hein. Vos vieillards auront des songes. Alors, est-ce que vous songez encore, les vieillards? Est-ce que vous avez encore des songes? Les Africains disent des visions nocturnes. C'est la même chose. Est-ce que vous avez encore ça? Ou est-ce que vous êtes complètement éteint? Bof, bah, on fait comme on a toujours fait, on fera toujours comme on fait. Et les jeunes, alors, est-ce que vous allez vous lever pour prophétiser? Ah, mademoiselle, là, hein, c'est plus pour chanter au vient esprit de Dieu, donc vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il me semble que tout ça, parfois c'est devenu une belle histoire, ancienne. Et pourtant, je peux vous dire, à Azusa Street, il y avait tout ça. Avec beaucoup de mélange, évidemment, mais tout ça était... Parce que là, j'en reviens à mon texte, où est l'Esprit du Seigneur. Donc là, où est le Saint-Esprit? Là est la liberté. Tu peux me remonter d'un verset, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas? C'est bien mis, là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur. L'Esprit ici, il nous parle, il parle du Saint-Esprit. Il ne parle pas de n'importe quel esprit, d'un esprit quelconque. Il nous parle du Saint-Esprit. Et vois-tu, là, où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. La liberté de quoi ? Mais la liberté de faire tout ce qui va nous inspirer. Vous savez ce que c'est une église comme la vôtre ici? C'est le corps de Christ. Ici, à Bois de Villers, vous êtes le corps de Christ. Vous n'êtes pas une religion. Vous n'êtes pas un club des fans à Jésus. Vous êtes ici le corps de Christ. Ici, vous êtes le mot incarnation, bon, il est un peu piégé, mais je veux dire l'expression de l'Église universelle. Vous savez, moi, je crois, l'Église universelle, c'est bien. Mais vous l'avez déjà vu, vous? Moi, j'ai jamais vu. Je dois attendre le retour de Jésus pour la voir. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, là, je verrai l'Église universelle. Mais pour le moment, je ne peux voir qu'une chose. Une Église locale. Et donc, vous êtes l'expression, ici et maintenant, de l'Église universelle. On n'aime pas beaucoup Calvin, hein, dans nos milieux pentecôtistes, charismatiques, mais vous savez, Calvin, il a dit beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses. Il a dit aussi plusieurs choses où moi je n'adhère pas personnellement, mais concernant l'Église locale, il a dit beaucoup de bonnes choses. Une chose qu'il a dite, c'est que le chrétien qui n'a pas d'église locale, c'est un chrétien qui est en train de se perdre. Et moi, je suis d'accord avec lui. Parce que de nos jours, la plus grande dénomination chrétienne en Belgique, c'est celle des pigeons voyageurs. C'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas d'église locale. Et malheureusement, on est dans un temps où tout favorise. On fait même maintenant des églises par Internet. Et je connais des chrétiens, ah, de quelle église tu es? Ah ben de l'église Internet, oui, alors on suit le culte sur une église. Oui, mais ça va pas ça, mes amis. C'est pas une église, ça. Une église locale, c'est un endroit où on peut se frotter les uns les autres, s'engueuler, et se pardonner. Mais l'église Internet, elle ne me gêne pas, vous savez. Là, au moins, moi je dis toujours, hein, c'est pas les petits Chinois qui me dérangent. Ceux-là, je les aime et j'ai pas de mal à les aimer. Mais là où j'ai des problèmes, c'est dans mon église locale. Avec celui-là qui m'énerve, c'est pas toi, hein. Tu fais pas partie de mon église locale. Celle-là qui a une tête de bourrique, qui veut rien comprendre et qui veut rien entendre, ce que moi, le pasteur, je lui dis, c'est là que j'ai des problèmes. Et pourtant, Dieu nous a mis ensemble pour être le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ. Mais les chrétiens, ils ont tellement une vision spirituelle et céleste de l'Église qu'ils n'admettent pas que dans l'Église locale, mais on va être là ensemble, se frotter les uns les autres. Alors ils veulent l'Église locale parfaite. Alors ils tournent. C'est des pigeons voyageurs, ils tournent dans toutes les églises. Et puis quand ils en ont fait suffisamment, ils n'ont pas trouvé l'église parfaite. Alors, ils se rabattent sur l'église Internet. Là, c'est parfait. Et là, vous avez des chorales. C'est pas Pascal à la guitare, hein. Comprenez? Vous avez des prédicateurs tout le temps. C'est pas Jacques Lemaire avec ses mauvaises dents. Ils sont stylés, tout est parfait. Alors là, ça va. Mais non, ça va pas. Et ça va même pas du tout. Calvin dit, nous nous sanctifions dans et par notre église locale. Quand on se frotte les uns les autres, qu'on se dispute, qu'il y a des chamailleries, qu'il y a tout ça, eh bien, c'est une bonne occasion de se sanctifier. Et de mordre sur sa chic, comme disent les Belges. Et de mourir à soi-même. Est-ce que vous considérez que c'est le corps de Christ, ça? Concrètement, pratiquement? Alors, vous savez, moi, je leur dis toujours, hein, tu cherches l'église parfaite? Mais dès que tu passes la porte, elle n'est plus parfaite parce que toi-même, tu n'es pas parfait. T'es le premier pollueur de ton église. Et tu cherches l'église parfaite? Moi, je suis pas parfait, vous savez. Venez à Courcelles pendant quelques semaines de suite, vous allez voir comme je suis pas parfait. Hein, quand on passe dans une église, quand on voyage, ici on va partir au Mexique la semaine prochaine, ah, on a toujours, hein, en ch'ti, on a un proverbe, hein, on dit les vaquettes longs l'ont des biopies. Quand vous prenez pas le ch'ti, hein, donc je vous le traduis en français, quand on voit une vache de loin, elle a toujours un beau pis. Hein? Vous voyez ce que ça veut dire? C'est que quand moi j'arrive ici chez vous et tout ça, hein, je suis beau et tout ça, je suis le ministère qui visite. On arrive au Mexique, on est des vedettes. Ouais, heureusement qu'on n'y croit pas trop. Mais je vous assure, on n'y croit pas. Mais c'est facile d'y croire, hein, et de faire la vedette. Ben non. Non. C'est le scandale de l'évangile. C'est la grâce. La grâce est scandaleuse. Vous ne savez pas que la grâce est scandaleuse? Ah ben non, parce que ça fait 40 ans qu'on nous raconte des histoires sur la grâce. La grâce est profondément scandaleuse. Je vais vous le montrer. Jésus l'a montré par une parabole. Il y a un patron, il embauche. Alors, il y a celui qui va travailler à 6 heures du matin. Il y a celui qui va travailler à 9 heures du matin. Il y a celui qui va travailler à midi. Il y a celui qui va travailler à 3 heures de l'après-midi. Et puis, arrivé au bout de la journée, à 6 heures du soir, tout le monde a le même salaire. Eh ben, dites ça au syndicat, vous avez une grève. Parce que c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est profondément scandaleux, humainement parlant. Mais tout mon socialisme ch'ti, parce que les ch'tis sont socialistes, eh ben, tout se dresse contre cette histoire-là. C'est un scandale, comme disait Georges Marchais dans le temps. C'est un scandale. C'est pas juste. Ça fait que moi, à 6 heures du matin, j'ai trimé, et Jésus dit sous la chaleur et tout ça. Et puis l'autre, là, le fainéant, il s'est levé à midi, il est venu travailler à 3 heures de l'après-midi, et au bout de la journée, il a le même salaire que moi. Alors, je ne sais pas si vous êtes FGTB, CSC ou quoi, mais c'est scandaleux. Mais cette parabole-là, elle nous montre ce que c'est que la grâce. C'est-à-dire que Dieu nous donne tout gratuitement, sans nos œuvres, sans nos mérites, qu'on soit du trou. Quand je dis ça dans les églises, j'en choque toujours, mais je le fais exprès. Qu'on soit du trou où Jacques Lemaire, l'ancien moine, on a la même grâce. Dieu n'a pas deux sortes ou trois sortes ou quatre sortes de grâce. Le plus grand pécheur, ce que nous on appelle le plus grand pécheur, et le plus religieux d'entre nous, on a la même grâce. Alors, pour la logique humaine, pour l'homme religieux même, c'est scandaleux. Mais Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est que le drogué qui a été volé chez la petite grand-mère, et peut-être même qu'il l'a torturé pour avoir son argent, et que la fille du pasteur, qui a toujours été dans l'église, bien religieuse, bien gentille, enfin du moins en apparence, et bien les deux ont la même grâce. Les deux ont le même pardon. Et je vois que là, vous êtes en train de... Ça carbure dans certaines têtes. Vous êtes en train de réfléchir, là. Eh bien oui, il faut que vous réfléchissiez à ça. Il faut que vous réfléchissiez à ça. C'est comme ça. Et nous sommes ici le corps de Christ. Et il n'y a pas de paroissien ici. Chacun et chacune, vous êtes membre du corps. Et vous avez un rôle à jouer. Un ministère, des dons spirituels. Et si vous ne les remplissez pas, vous êtes en train de rendre le corps malade ou handicapé. Autrement dit, je suis en train de vous dire que si votre Église ne fonctionne pas à votre idée, selon ce que vous souhaitez, c'est de votre faute. C'est pas de leur faute, hein. C'est pas de sa faute. C'est pas la faute des responsables. S'il y a un dysfonctionnement, c'est parce que ici, il y a un ou plusieurs membres qui ne remplissent pas leur fonction de membre. Moi, j'ai des mauvaises jambes. Eh ben, tout mon corps en souffre. Parce que régulièrement, je me casse la figure. Et alors c'est très marrant parce que je sais plus me relever, alors il faut des costauds pour me remettre sur mes jambes. Quand je suis remis sur mes jambes, ça va à peu près. Et l'autre jour, ma jambe a flanché, j'ai descendu tout l'étage sur mon côté gauche. Tout le corps. C'est ce qui se passe dans l'Église. Tu ne prends pas ta place. Vous savez ce que j'ai remarqué? Mais pour moi, c'est du bon sens. Hein. Je suis pas en train de vous donner des grandes révélations. Je suis en train de vous ramener au bon sens. Vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que si vous trouvez qu'il y a un manque dans votre Église, que toi on dit « Ah, il faudrait ceci, il faudrait un café à la fin de la réunion, ou il faudrait plus de repas communautaires, ou bon, je sais pas moi, tout ça, vous savez, où les toilettes sont sales. » Où on ne fait rien pour les enfants, où on ne fait rien pour les jeunes, eh ben c'est très simple. Au lieu d'aller faire marcher votre babaye, blablabla, blablabla, perdez-le, on dit à Charleroi, à droite et à gauche dans l'église et de mettre une mauvaise ambiance. Si Dieu t'a montré un manque, une lacune, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à toi de la combler. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une bonne louange. Mais lève-toi pour une meilleure louange. Il n'y a pas d'école du dimanche. Mais lève-toi pour l'école du dimanche. Les WC sont pas propres. Ben, nettoie-les. Et puis tais-toi. Dieu vous montre là où vous devez fonctionner comme membre du corps de Christ qui est ici. Et nous, on n'a pas de diacre, hein, dans notre église, parce qu'on est tous des diacres, c'est-à-dire tous au service les uns des autres, depuis le pasteur jusqu'à la madame pipi de l'église. On est tous des diacres. Et alors nous, tout ça, on fonctionne simplement selon les ministères et selon les dons. Et puis ça marche pas si mal, vous savez. Il n'y a pas besoin de toute cette hiérarchie évangélique, là. Pasteur, ancien, diacre. Ça ne veut rien dire, tout ça. C'est de la tradition. Tu vas être rempli du Saint-Esprit et tu vas, en tant que membre, remplir ta fonction dans ton Église. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est quand tous sont impliqués. Et puis, il n'y a plus de paroissiens qui viennent user leur fond de culotte ou leur fond de jupe. Bon, même les femmes maintenant mettent des culottes. Donc, mais si vous mettez encore des jupes, leur fond de jupe, dimanche après dimanche, sur les chaises ici. Et puis à la sortie, merci monsieur le pasteur pour votre sermon qui m'a fait tant de bien. Ne venez pas me dire ça à la fin, je vous fous une tarte. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je m'en fiche que mon sermon vous fasse du bien ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous allez le mettre en pratique ? Tout le reste, c'est des politesses évangéliques, des frérisations et des cerisations. M'appelez pas pasteur, je suis pas votre pasteur, c'est lui votre pasteur. Alors si vous voulez l'appeler pasteur lui, appelez-le pasteur. Il est votre pasteur. Moi, je suis pasteur à Courcelles. Quand je sors, je suis plus pasteur. Alors vous m'appelez Jacques, comme tous les copains. Non, mais... comprenez, il y en a marre de tous ces machins qui font pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est des trucs, des machins, et des politesses, et des... Bon, écoutez, on est tous frères et sœurs, vous êtes d'accord, là, c'est quand même un principe. Bon, moi, j'ai jamais appelé mon frère, frère Bernard, et mon autre frère, frère Christian. Je l'ai appelé Bernard et Christian. Dans une famille, c'est comme ça. Courcelles, on est une grande famille. On s'appelle par nos prénoms, et puis c'est marre, hein. Moi, j'en ai marre de tout. Quand le Saint-Esprit va souffler, vous allez voir que tous ces machins-là, bien religieux, bien ronron, mais qui ont l'apparence de la piété, et c'est ça que je dénonce, mais qui ne sont pas la piété, parce que ce n'est que des formules creuses. Vous allez dire, Jacques Lemaire, là, il est dur. Mais oui, je suis dur. Bien sûr que je suis dur. Parce que tout ça, ça ne fait pas la volonté de Dieu. Tout ça, ça ne fait pas de nous des membres efficaces dans le corps de Christ. Alors on peut s'en passer. Et là, bon, pour que l'arbre porte des bons fruits. Vous savez, moi, je crois au sacerdoce universel des croyants. Parce que je suis protestant. Donc, je traduis en bon français. Chacun de nous est prêtre. On n'est plus catholique, hein. Dans l'église catholique, il y a des prêtres. Dans l'église orthodoxe grecque, il y a des prêtres. Mais ici, c'est chacun de nous qui est un prêtre. Les hommes comme les femmes. Les jeunes comme les vieux. Les intelligents comme les bêtes. Les juifs et les grecs. Dit l'apôtre Paul, les hommes libres et les esclaves, les hommes et les femmes. C'est très bien ce que tu as donné comme introduction à la Sainte Cène. Tu devrais plus prêcher. Ou est-ce que vous avez vu qu'il n'y a que les hommes qui prêchent? Ah oui, il y a des textes, mais on les prend à l'envers. On les comprend mal, on les met pas dans le contexte. Ça fait des dizaines d'années et des siècles qu'on a brimé la moitié du corps de Christ. Et qu'on a refusé aux femmes, pratiquement, leur participation au sacerdoce universel des croyants. Tu as le même cœur et la même cervelle que moi. Les femmes n'ont pas une intelligence et des sentiments différents que les hommes. Alors, il faut qu'on arrête avec tout ça. Et il y a des appels, ici, de filles et de femmes à servir Dieu au ministère, et la tradition, elle les croque. Alors, le Saint-Esprit va souffler un vent impétueux. Mais, et je vais terminer, parce que peut-être qu'on va avoir un temps pour prier pour vous. Tu me remets la suite, s'il te plaît. Merci. Comment on t'appelle, au fait? Gérald? Géraldo? Hein, c'est bien, Géraldo. T'es belge, toi? T'es comme moi, t'es étranger ici, hein? Immigré. Tu viens d'où? Ah, il me semblait bien que il y avait un petit quelque chose d'Amérique latine. Parce que nous, on est souvent en Amérique latine. Hein? Hein? Ouais. Parle espagnol alors. Ah, c'est magnifique. Moi, je parle pas espagnol, hein. Parce que comme avec Daniel, on voyage dans les pays hispaniques, en Amérique latine, et puis on voyage aussi en Roumanie. Alors, on a fait un deal entre nous deux. Elle a appris l'espagnol, et moi, j'ai appris le roumain. Alors, quand on est en Roumanie, c'est moi qui ai le crachoir pour parler avec les gens, tout ça. Et puis, mais quand on est là-bas en Amérique latine, c'est Daniel qui a le crachoir. Comme ça, ça nous a... Bon, on peut pas tout apprendre toutes les langues, hein, du monde, hein. Et en plus, Daniel, elle accrochait très bien avec l'espagnol. Et moi, j'accrochais très bien avec le roumain. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon. Donc merci. T'es un très bon diacre, hein, dans le sens de être au service du corps de Christ. Tu sais ce que tu fais là? C'est un ministère. Il n'y a pas de grand ou petit ministère. Il n'y a pas de ministère spirituel et des ministères matériels, on va dire. Non. Tout est spirituel dans l'Église. Et rends-toi compte que si tu n'étais pas là à ton ministère,
je serais là en train de négocier.
Donc j'ai besoin de toi dans mon ministère. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que ici, dans votre église, c'est un peu décousu, hein, je vous parle comme un grand-père qui radote un peu. Enfin, vous en tirerez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Mais ici, dans votre église, vous avez une certaine mesure de gloire. Vous savez ce que c'est la gloire? C'est la présence de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu, c'est ça. Je n'ai pas encore trop fait d'hébreu, je vais en faire un peu maintenant. En hébreu, c'est kabod. Et kabod, ça veut dire le poids. Le poids. Vous avez dans vos réunions des moments où vous sentez la présence de Dieu comme un poids. C'est la gloire, c'est ça. Et puis c'est aussi la Shekinah, c'est-à-dire l'habitation de Dieu au milieu. Mais c'est les deux. Et ici vous avez une certaine gloire de Dieu qui se manifeste, une certaine présence du Saint-Esprit qui se manifeste. Heureusement, hein. Parce que sinon, on remballe tout et puis on va prendre l'apéro. Hein. Il y a un café pas loin, là. Donc, il y a une certaine gloire. Mais je vais juste m'arrêter sur cette petite expression que vous trouvez à l'avant-dernière ligne. De gloire en gloire. Aussi bien en tant qu'individu, en tant que chrétien individuellement, que en tant qu'église, corps de Christ. La gloire de Dieu doit se manifester. Que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie tous ensemble, comme église, comme corps de Christ. Et la gloire de Dieu se manifeste. C'est la présence du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être autrement. Ça doit être comme ça. Mais, donc, de gloire en gloire. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit va souffler comme un vent impétueux, il va y avoir une plus grande gloire, une plus grande présence de Dieu, un plus grand investissement de chacun de nous dans notre église locale, comme je viens d'essayer d'expliquer. Seulement ici, la traduction, elle est défectueuse, malheureusement. C'est à cause du français. Parce que, en fait, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que si on veut plus de gloire, c'est pas une gloire qui grandit. Parce que, d'après la traduction, on pourrait croire ça. La gloire va grandir. Hein? Eh ben non. L'apôtre Paul dit exactement, quittant une gloire pour entrer dans une gloire. Et ça, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que il faut que vous acceptiez de lâcher prise. C'est pas quelque chose qui va grandir, mais c'est quelque chose qui va nous bouleverser. C'est quelque chose qui va nous révolutionner. Et la mesure de gloire qu'on a actuellement, il va falloir l'abandonner. Que Dieu puisse nous donner une plus grande mesure de gloire. Et ça, c'est le problème. Parce qu'il y a un pas de la foi à faire. Pour abandonner la mesure de gloire que j'ai actuellement, il faut que je fasse un pas de la foi. Parce qu'on a un tas de proverbes et dans notre culture qui sont complètement contraires à ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'on dit, nous ? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, par exemple. Vous connaissez ce proverbe-là ? Alors, on s'accroche à notre tien. Non ? Et dans la vie spirituelle, on fait ça aussi. On s'accroche à ce qu'on a. Et ici, l'apôtre Paul leur dit aux Corinthiens, mais quittez, acceptez là où vous êtes, les bénédictions que vous avez reçues, la gloire que vous avez reçue, acceptez de la quitter. Pour entrer dans une autre gloire. Pas une gloire différente, hein, en nature, mais une autre gloire encore plus grande. Une présence de Dieu encore plus grande. Et vous vous rendez bien compte que ça va bousculer, ça bouscule toutes nos manières de faire, toutes nos traditions, et où les chrétiens vont dire, mais on a toujours fait comme ça, et on ne voit pas de raison de faire autrement. En Roumanie, c'est terrible. Ils croient que ce qu'on a toujours fait, c'est ça la bénédiction. À tel point qu'il y a un pasteur qui voulait déplacer le piano parce qu'il trouvait que c'était mieux. Donc le piano est là, il voulait le mettre de l'autre côté. Il a eu une division. Parce que on avait l'impression que l'onction s'en va. Non, il faut quitter une gloire si on veut entrer dans une plus grande gloire. Et moi, je vois ici, dans quelques semaines, dans quelques mois, bon, je ne le dis pas comme prophète, hein, moi je ne suis pas prophète, hein, ce n'est pas une prophétie. C'est simplement, je vais dire, du bon sens d'un vieux pasteur qui a 42 ans de ministère. Je vois ici que dans quelques mois, il va y avoir ça. Et tout va être bouleversé. Même votre manière de faire votre bon vieux petit culte. Est-ce que vous l'accepterez? Est-ce que vous êtes prêt à accepter de faire ce pas de la foi? Voilà, on lâche tout ce à quoi on se cramponne et on va, le Saint-Esprit est Seigneur, c'était dans notre texte, hein. Et donc le Saint-Esprit va reprendre les commandes. Parce que il y a une chose que nous on a apprise à Courcelles, c'est que le Saint-Esprit, si on veut le contrôler, ben on l'éteint pas, il s'en va. Parce qu'on ne peut pas l'éteindre, il est Dieu, mais il s'en va. Mais on éteint l'onction, on éteint la gloire. Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit reprendre les commandes? Ou même peut-être votre couple pastoral vous dira, mais on comprend plus ce qui se passe. Et je vous assure, moi je suis pasteur, il faut beaucoup de foi pour un pasteur pour dire ça. Je reconnais plus mon église. Le Saint-Esprit est en train de la transformer. Et je sors de mon, on est sorti complètement de notre confort d'église, de pasteur. Tout le monde n'est pas prêt à ça, hein? Trouvez pas? Moi je crois que oui. C'est pour ça qu'on prie tant pour le réveil. Le réveil ne vient jamais. Parce que le Saint-Esprit doit régner. Et quand le Saint-Esprit règne, eh bien tout ce qui est humain doit lâcher. Quitter une gloire. Vous avez une gloire. Je ne suis pas en train de vous dire ici que vous êtes des nuls. Hein? Vous connaissez le livre « La Bible pour les nuls ». Bon, c'est pas le Saint-Esprit pour les nuls ici. Vous avez une mesure de gloire, bien sûr. Mais il va falloir la quitter, l'abandonner, et ne plus rien comprendre à ce que fait le Saint-Esprit. Il faut beaucoup de foi, c'est la foi qu'il vous faut. Et c'est ce que je vous souhaite. Bon, alors, il est grand temps que je me taise, parce que on va prier pour ceux qui veulent. On va prier pour ceux qui veulent, parce qu'il faut que vous soyez prêts. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, tout mon bavardage, mais on va prier pour vous maintenant.